deux principaux candidats qui ont été disqualifiés, qui ont fait que ça ne les arrangeait pas, il fallait arrêter la machine.
Mais il est quand même parti en connaissance de cause, il y avait eu d'autres réunions à Pretoria. Pourquoi il n'a pas demandé plus tôt à sa base et ses militants leur avis avant d'aller signer cet accord?
Effectivement, il s'est rendu à Genève sous l'impression que tout était bien organisé, dans le sens qu'il y avait un document préparatoire qui avait été signé et accepté de tous. C'est le document qui énonçait les critériums. Il y avait 8 critériums par lesquels on allait faire la selon lesquels on allait faire la désignation du candidat commun. Et M. Tshisekedi est parti fort de cela en disant, bon, nous avons un document qui nous permet de pouvoir régler ce problème sans problème. Et mais il est arrivé qu'ils n'ont pas respecté ces critériums. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé, mais c'est pas ça à quoi on s'attendait.
Et pourquoi il a signé alors?
Vous savez, vous pouvez être dans un environnement où on vous pointe ne plus qu'un stylo dans le dos, et c'est un couteau, et on vous dit, vous devez faire ça.
Donc vous êtes en train de nous dire qu'il avait un fusil sur la tempe pour qu'il puisse signer ce papier?
Je ne dis pas qu'il y en avait un, mais l'environnement était tel qu'il fallait s'en sortir pour pouvoir faire quelque chose. C'était un climat tel qu'il fallait faire quelque chose avant de perdre les pédales. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans cette situation-là. Il a signé, il est sorti. Et de là, il a compris que c'était une bévue, il a dû changer.
D'accord. Donc, selon vous, donc Félix Tshisekedi était sous pression. On va poursuivre avec une question qui vient de notre télévision partenaire à Brazzaville, Vox Congo. Regardez.
Salut à tous, ma préoccupation est celle-ci. Que reprochent réellement les deux candidats Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe et leur base? Est-ce que c'est le contenu de cet accord qui pose problème ou la personne même de Martin Fayoum?
Alors Henri Désiré Nzouzi, vous avez entendu la question de notre confrère. Est-ce que vous avez un élément de réponse?
Écoutez, d'emblée, je dirais que le propre des bases, c'est d'être intimement attaché à leur champion. Et n'étant pas présent physiquement lorsque les discussions se sont faites à Genève, il était donc compliqué pour elle de savoir si c'était par rapport à M. Fayoulou, ou plutôt par rapport au fait que les deux candidats, en tout cas, se sont sentis, comme certains le disent, grugés. Mais je voudrais quand même dépassionner le débat en disant simplement des choses. Il est vrai que le mode de désignation qui a été proposé n'était pas du tout prévu, puisqu'il n'était même pas dans le document qui avait été signé à Pretoria quelques jours plus tôt. Cela n'enlève en rien le fait qu'il était tout à fait possible de proposer tout simplement un report du processus de désignation, et sachant que chacune de ces bases, de toute manière, en son âme et conscience, espérait que son champion serait désigné, il n'est donc pas du tout anormal qu'elles aient réagi de cette manière. On peut simplement déplorer effectivement que certaines démarches n'aient pas été entreprises avant et que l'on ait effectivement placer les signataires devant le fait accompli.
Ça jette quand même un certain discrédit sur justement les faits sur Félix Tshisekedi et sur Vital Kamerhe. Nick Elébé, je voudrais vous poser une question. Pourquoi certains militants de l'opposition dénigrent la base de Martin Fayoulou alors qu'il est soutenu par 4 autres personnalités?
Je crois que, comme Désiré le disait tout à l'heure, chaque camp souhaite effectivement voir son champion gagner. La désignation de Martin Fayoulou a semblé être une désignation assez particulière, parce qu'on est en face d'un candidat assez inédit, assez inattendu. Un candidat qui surprend, n'est-ce pas? Certes, on est en face d'un Martin Fayoulou qui est à la tête d'un parti politique très jeune. 2009, c'est la création de l'ESID. Ce parti politique n'est pas présent sur l'ensemble du territoire congolais à ce jour. Et donc, il part avec un certain handicap. lié aussi à sa renommée. Il n'est pas connu sur l'ensemble du territoire national, bien qu'il faille relever qu'il a été élu au moins 3 fois, députation nationale, députation provinciale en 2006 et 2007, et puis députation nationale en 2011. Il a fait des interventions dans les médias, il a été en mesure d'être assez présent lors des activités de l'opposition ces dernières années, et donc c'est quand même un profil qui compte au sein de l'opposition. De l'autre côté, je me dis qu'il ne faut pas non plus négliger le candidat, parce qu'effectivement, il a derrière lui 4 autres leaders de l'opposition politique, et ça compte aussi dans un contexte tel que celui-ci. Et il faut également noter que ce processus électoral est assez simple, c'est assez compliqué, mais assez inédit aussi, comme je disais tout à l'heure. C'est un processus électoral qu'on ne peut pas gagner seul. Je pense que la majorité l'a très bien compris en créant le FCC, et qu'il serait temps, et même impératif, que l'opposition aussi fasse également le même effort, parce que aucun parti aujourd'hui n'a la capacité de gagner seul ces élections.
Oui, et parmi les 7 opposants de la coalition Lamouka, il y a 3 invalidés à l'élection qui ont voté. Il y a Aldolf Mouzito, il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Moïse Katumbi. Gilbert Mundela, quel rôle Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, qui ont d'ailleurs gardé un silence assourdissant jusqu'à présent, ont-ils joué en coulisses?
Mais vous savez que nous avions émis le souhait de voir ce genre de forum se tenir sur le continent africain. Et M. Katumbi a été le premier à être tenu informé de ces désirata de la part de M. Tshisekedi.
Donc c'est dès Moïse Katumbi qui a appelé la Fondation.
Nous nous posons la question, comment est-ce que la Fondation Kofi Annan a émergé dans ce jeu? Qui l'a amené? Qui a financé cette affaire? Comment est-ce que M. Alando s'est retrouvé dans cette affaire? C'est ça le problème qui se pose.
Et qu'est-ce que vous insinuez? Est-ce que vous insinuez qu'il y a eu des influences externes au sein du vote de la coalition Lamouka?
La politique se joue de plusieurs manières. Et je crois que ceux qui ont voté, ceux qui ont parlé aux oreilles de M. Tshisekedi, ceux qui ont parlé aux oreilles de M. Vital Kamerhe, savent bien ce qu'ils ont dit pour arriver à ce résultat. Et le mot de désignation du candidat commun n'était pas par vote. M. Alandos a commis une erreur impardonnable. Il devait tout d'abord dire que ça ne va pas, revoyons un peu le procédé pour pouvoir trouver un motus operandi qui allait satisfaire tout le monde. Mais il ne l'a pas fait.
Henri Désiré Nzouzi, j'aimerais que vous réagissiez aux propos de Gilbert Mundela. Quel était l'intérêt de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Bemba de soutenir Martin Fayoulou?
Techniquement, il était beaucoup plus facile de jeter son dévolu sur le plus faible des candidats pour une raison très simple, c'est que prendre le risque de soutenir Vital Kamerhe ou Félix Tshisekedi, c'est prendre le risque de se mettre un adversaire en travers le chemin dans les 5 ans à venir. Donc apporter un tel soutien pouvait effectivement poser un problème d'ordre politique. Donc c'est par pure opportunité en fait que ce choix a dû se faire.
C'est une équation congolaise assez obscure là, parce qu'ils sont invalidés. Quel serait par exemple l'objectif de Moïse Katumbi de voir l'opposition partir en rang dispersé si ce n'est le risque de rester en exil à vie?
Non, il a simplement un coup d'avance. Je pense qu'il mise sur un report du scrutin. S'il y a un report du scrutin, il y aura forcément une remise à plat du processus, et ça permettrait à certains, évidemment, de pouvoir inclure dans le package des négociations une décrispation qui pourrait aboutir, par exemple, à un réexamen des candidatures qui ont été invalidées. C'est aussi simple que ça.
Donc la désunion là pour le moment de l'opposition, c'est là plutôt la majorité qui s'en frotte les mains, c'est un boulevard pour le parti au pouvoir. Écoutons Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, ses propos sont recueillis par Idriss Fall.
Je dirais même que c'est de bonne guerre pour nous. Il y a une seule chose qui m'intrigue, c'est cette culture du reniement, cette culture de la contestation pour contester, et qui me renvoie un peu à remettre en relief leur contestation de la machine à voter. Puisque s'ils peuvent contester comme ça leur propre signature, donnée 24 heures auparavant, qu'est-ce qu'ils ne contesteraient pas? Donc ce n'est pas à cause du fait que la machine à voter pose problème qu'ils contestent, c'est parce que c'est leur culture, c'est leur habitude, c'est leur ADN de contester qu'ils contestent.
Nikelebe, vous avez entendu les propos de Lambert Mende. Est-ce que le grand gagnant de ce rebondissement n'est pas le candidat du pouvoir Ramazani Shadary?
Il est évident que ce rebondissement est effectivement du pain béni pour la majorité, parce qu'une opposition divisée, des voix d'opposition éclatée entre différents candidats, n'est-ce pas, est un handicap pour l'opposition et donc un avantage pour la majorité. De l'autre côté, il faut aussi relativiser un peu cette attitude qui consiste à dire qu'il s'agirait d'un boulevard ouvert à la majorité présidentielle et à son candidat, parce que derrière cette situation, il faut convenir que chaque camp garde un socle électoral quasi intact, que ce soit les partisans de Kamere ou les partisans de Tshisekedi, ils se réjouissent et ils continuent à garder le cap derrière leur candidat. Je pense que c'est pratiquement la même chose pour tout autre candidat engagé dans ce processus électoral. Et donc ce socle électoral reste intact. Le grand questionnement aujourd'hui, c'est cette situation de cet électorat qui n'est pas nécessairement un électorat partisan. Il faut rentrer dans l'électorat congolais et réaliser qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'électeurs congolais qui restent des indécis. Donc le grand challenge, quelle sera la capacité de ces différents camps politiques dans la situation et dans la configuration dans laquelle elles se trouvent aujourd'hui, d'aller gagner des électeurs
à rallier les indécis. Merci beaucoup. Washington Forum revient après une courte pause. Pour la seconde partie de Washington Forum, toujours nos trois invités pour nous accompagner en direct de Kinshasa, Nikelebe, directeur d'Oziza en RDC, en direct de Bruxelles, Henri Désiré Ndouzi, analyste politique, et sur notre plateau, Gilbert Mundela, conseiller de Félix Tshisekedi, le leader de l'UDPS. Alors l'échec de Genève est très largement commenté en RDC, comme nous allons l'entendre dans ce micro-trottoir recueilli par notre correspondant à Kinshasa.
Pour moi, ils donnent un mauvais exemple à la jeunesse que nous sommes. Ils ne peuvent pas représenter un État, parce qu'ils ne sont pas crédibles. Et on ne peut pas avoir des dirigeants qui ne sont pas crédibles à la tête de l'État, d'un grand pays comme la République du Congo.
C'est leur opinion, hein. Nous sommes à la démocratie, chacun peut. Mais ceux qui méthodent, ils ont signé. Pourquoi maintenant ils se retirer? Ah mais là, donc je regrette à mon frère, hein.
Il prouve bien qu'il y a une influence où les gens secrets qui sont en train de l'air motivés d'une part à faire déséquilibrer la personne qu'ils ont fait sortir comme leur candidat unifié, mais c'est à la personne du monsieur Martin Fayoum.
Souvent nous disons un homme sage s'engage en connaissance des causes. Et déjà, comment vous pouvez vous mettre ensemble, faire sortir une personne et puis un jour, 24 heures après, même pas un long moment, et puis vous retirez votre signature.
C'est pas vraiment des leaders. Ce ne sont pas des leaders. Vraiment, un leader, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il réalise, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il reste. C'est ça au moins pour moi.
Comme on a pu l'entendre, est-ce que l'UDPS et l'UNC ont manqué de stratégie par rapport à Martin Fayoulou?
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que nous avions énoncé notre plan d'action et nous avons proposé aux amis comment nous allions avancer ensemble pour pouvoir gagner les élections. Nous avons déjà formé nos observateurs et nous continuons à les former. Nous demandions aux amis d'en faire autant pour que nous ayons une meilleure coalition. Les amis nous ont répondu par la réponse qui disait que nous devons enlever la machine à voter et refaire le registre électoral. Ce faisant, en posant cet acte, c'est quoi? Ça signifie qu'on ne va pas aux élections. Et qui gagne à la fin, c'est qui? C'est Kabila. Il n'organise pas les élections. en enlevant la machine, parce qu'il va dire l'opposition m'a demandé d'enlever la machine, de refaire le fichier électoral. Je l'ai fait. Maintenant, il n'y a pas de président élu, donc je continue.
Donc c'est quoi? Donc l'UDPS donc, a déjà dit qu'ils veulent partir aux élections avec ou sans la machine à voter.
Nous l'avions
dit. Mais et donc, vous, c'est quoi par rapport à Martin Fayoulou? Vous pensez que Martin Fayoulou a une position ambiguë?
Non, Martin Fayoulou...
Il est contre le boycott.
Justement, maintenant, nous allons voir comment il va s'y atteler pour que nous puissions avancer. Parce que nous avons posé la question clairement. Avec ou sans machine, le 23 décembre, lorsque nous nous retrouvons en allant aux urnes et que la machine est là, qu'est-ce que nous faisons? C'est ça la question à laquelle ils ne répondent pas. Mais il faut comprendre les jeux qui se jouent dans cette affaire. Il y a des amis qui ne sont pas impliqués, qui se sont arrangés pour bloquer la machine, de manière à ce qu'ils puissent se retrouver dans le jeu. C'est ça. Parce que si Tshisekedi gagne les élections, ou il en sort vainqueur, c'est au détriment des autres.
Nick LB, est-ce que l'opposition ne serait pas en train de chercher un bouc émissaire?
Déjà, en parlant de l'opposition, il faut convenir qu'elle ne constitue pas un bloc uni aujourd'hui. Il y a trois tendances qui se dégagent. La tendance que nous venons d'entendre, celle de l'UDPS qui veut aller aux élections avec ou sans la machine à voter. Il y a une tendance qui consiste à dire pas de machine à voter, révision du fichier électoral, éventuellement une réforme de la CENI avant d'aller aux élections, mais on sait tous que, étant donné les défis liés au temps, ce sera très difficile d'accomplir une telle recommandation. Et puis une troisième tendance, qui est celle possible des invalidés, qui espèrent, à travers un éventuel report, revenir au centre du terrain et retrouver une place dans le jeu politique. Maintenant, de l'autre côté, on ne sent pas qu'il y ait une quelconque voix qui plaide pour le report des élections. Que ce soit au niveau de la majorité, de l'opposition, de la société civile, les voix sont toutes unanimes, il faut des élections pour 23 décembre 2018. Et donc la question est comment les uns et les autres se préparent à ces élections. Effectivement, il faut que les partis politiques travaillent à comment ils organisent la surveillance du processus électoral, parce que c'est un défi majeur, et la société civile de son côté doit faire une observation électorale et doit s'engager dans l'accréditation, dans le processus d'accréditation de leurs témoins, de leurs observateurs, pour assurer qu'il y ait de ceux qui soient sur le terrain pour observer ce qui se passe et pour agir en conséquence.
Henri Désiré Nzouzi, revenons sur le statut même de Martin Fayoulou, parce qu'il est contre le boycott, il est pour le retrait de la machine à voter et le nettoyage du fichier électoral. Alors, est-ce que vous croyez vraiment que ces exigences vont être acceptées, ou il n'y a pas une contradiction en fait dans ces désirs?
Ces revendications sont purement chimériques, puisque si d'aventure la CENI devait accéder à cette revendication, certes légitime, cela impactera nécessairement sur calendrier. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, 28% du budget total des élections n'a pas encore été libéré, même si récemment l'ambassadeur de RDC aux Nations Unies a donné des garanties. À titre personnel, je suis assez surpris du silence de la CENI, alors que normalement la semaine prochaine devrait démarrer la campagne. Donc toute réforme, toute initiative qui irait même dans le sens d'un apaisement ou d'une décrispation impactera nécessairement sur le calendrier. Maintenant, il faut simplement être attentif à ce qui va se passer dans les prochains jours pour avoir effectivement les garanties quant à la tenue effective du scrutin à la date prévue.
Merci Henri Désiré Nzouzi. Gilbert Mundela, vous nous avez dit que vous êtes prêt, oui, pour les, que l'UDPS est prêt pour les élections, mais est-ce que vous êtes consciente avec là, le retrait de la signature de Félix Tshisekedi d'un accord qui était historique, qu'il peut y avoir une perte de sa crédibilité? En fait, on a perdu un coup, non?
Non, je ne pense pas. Le peuple congolais s'est manifesté. C'est bien qu'on dise que ce soit seulement les militants de l'UDPS et ceux de M. Kamere. Je crois qu'il y a une nuance qu'il faut comprendre ici. Le peuple est souverain, le peuple s'est exprimé. Il ne veut pas qu'on lui impose des dirigeants qui sont boutiqués d'une manière ou d'une autre contre les intérêts de ce peuple-là. pour une fois, pour une première, le peuple congolais s'est dit, nous allons nous prendre en charge, nous n'allons pas accepter qu'on nous impose des dirigeants. Et pour la bonne affaire, c'est que M. Kabila a pensé qu'il pouvait bluffer les Congolais en disant qu'il allait organiser les élections. Il n'est pas prêt à lâcher le pouvoir. Il est là, en train de tout faire. Il a été surpris.
Bon, ils ont nommé quand même un candidat.
C'était pour répondre aux exigences de l'Occident et les exigences internes qui disaient qu'il doit quitter, il doit nous présenter un dauphin. Mais M. Kabila n'est pas prêt à partir. Il veut trouver un motus operandi pour se retrouver là, à dire on peut faire un gouvernement d'union nationale ou de coalition pour régler le problème. Comme il n'y a pas de président élu, je reste et nous avançons. Le nœud du problème se trouve dans la position que Kabila cherche à manipuler. Et les autres lui ont prêté flanc.
Bon, ce que les Congolais attendent de leur leader, c'est comment résoudre leurs problèmes quotidiens, s'occuper de la pauvreté. Nikelebe, vous qui êtes à Kinshasa, dans quelle mesure les différents partis politiques ont pu présenter leur programme dans toute cette confusion?
Fort malheureusement, il n'y a pas à ce jour de débat public autour du programme des différents candidats, ni celui des différents partis politiques prêts à aller vers ces élections. Les débats se cristallisent davantage autour des personnes, autour des individus, et les programmes ne sont pas connus de la population. Certes, certains candidats ont diffusé à travers les réseaux sociaux des documents liés à leur programme, mais très peu de Congolais ont accès à ces réseaux sociaux, et donc il n'y a cette impossibilité de débat public autour du sujet, et la campagne électorale, malheureusement, ne fournira pas plus de temps pour un débat de fond sur les programmes des candidats. Donc, les Congolais voteront à la tête du client, les Congolais voteront pour un candidat, ils voteront pour un candidat contre un autre candidat.
Alors, à l'approche justement de la campagne, les opposants vont-ils tenter de mobiliser pour leur candidat ou ils vont continuer à se battre contre la machine à voter et le fichier électoral Henri-Désiré Nzouzi?
Je crois qu'il faut être pragmatique et entrer en campagne de plein pied. C'est ce qui me paraît fondamental. Si maintenant il faut créer les conditions de la réussite, je ne saurais trop conseiller aux deux grands candidats d'y aller de manière concomitante, donc ensemble, avec éventuellement l'objectif pour Vital Kamerhe à l'Est de pouvoir amoindrir, voire, je dirais, affaiblir l'impact de la candidature de Ramazani Shadary, ce qui pourrait effectivement redistribuer les cartes au centre et à l'ouest. C'est une manière de voir les choses, mais courir après deux lièvres à la fois, se battre contre la machine à voter, le fichier électoral, et en même temps proposer, ou en tout cas soutenir les candidats dans la campagne, ça me paraît assez compliqué. Seule la fée Clochette pourrait venir en aide à tout ce bon monde.
Il nous reste quelques secondes pour clôturer. Si la CENI décide de garder la machine à voter, quel va être le scénario? Un report sera-t-il possible?
Non, il n'y a pas de report. Nous allons aux élections. Nous nous sommes préparés et nous avançons. Nous avons les candidats. Nous avons la machine qu'il faut. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est que le message passe. Et nous allons entamer notre campagne le 22, comme il se le doit. Et à la grâce de Dieu, nous allons gagner parce que le bilan de M. Kabila et toute son équipe est nul. Et c'est contre ce bilan que M. Shadary va essayer de nous convaincre. C'est ça ce que nous cherchons. M. Shadary devra expliquer les morts de Kamwena Sabu, devra expliquer les rébellions, devra expliquer les pillages de nos ressources, devra expliquer les viols de nos femmes et de nos sœurs.
Merci, c'est déjà la fin du débat. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. Excellente suite de programme.